Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des food tours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorezvousguide.fr. Bonne écoute! Blogueuse voyage, photographe, foodie, voilà quelques-unes des facettes d'Ophélie Chaffard, alias Limitless Secrets, sur les réseaux. Ophélie a eu une première vie professionnelle qui l'a amenée hors de France, avant de décider de changer de voie. Lors de cet échange, on a donc parlé de son enfance, de sa gourmandise, mais aussi de son œil de photographe, et de son goût pour le beau sous toutes ses formes. Bonne écoute! Bonjour Ophélie.
Bonjour Marion.
Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de La Madeleine. Donc pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es Ophélie du compte Instagram, et pas que Instagram, Limitless Secrets. Mais pour commencer, c'est la question rituelle un peu de tous les podcasts, je vais te laisser te présenter un petit peu ton parcours, qui tu es, à la manière dont tu le souhaites.
Très bien, bah déjà je suis ravie d'être là. Bonjour à tous les auditeurs. Donc je suis Ophélie, blogueuse voyage, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, principalement donc Instagram, et photographe, et foodie avec un F majuscule.
Ah, ça me plaît.
voilà. Donc quelques mots par rapport à mon parcours. Moi, je suis quelqu'un qui ne vient pas du milieu des réseaux sociaux. Donc j'ai commencé avec une carrière dans le monde du marketing et du commercial pour des grands groupes que j'ai ensuite quitté pour me mettre à mon compte et me concentrer sur mes passions qui tourne autour du voyage, de la photographie, de rencontrer des gens et d'échanger avec des gens du monde entier. Et autre passion, c'est vrai, la food, j'avoue. Et du coup, je partage tout ça aujourd'hui donc sur Instagram, TikTok, sur mon blog aussi. Donc, vous pouvez retrouver sous limitless-secrets.com où je partage mes conseils de voyage et mes bonnes adresses pour manger dans le monde, mais surtout à Paris parce que Paris, c'est mon terrain de jeu favori. Mmh. J'adore cette ville et surtout j'adore découvrir des beaux endroits et des bons endroits.
Ouais. Voilà. Qui allie les deux, quoi.
Voilà.
Si possible.
Ouais.
Parce que du coup, on va en parler, tu sais, moi, ma spécialité, c'est la pâtissologie, donc découvrir la dégustation avec les cinq sens, mais du coup, la vue, pour toi, j'imagine que c'est quelque chose de très, très important, puisque c'est ce que tu vas montrer. Et puis, il y a ton œil de photographe, j'imagine, dans tout ça.
Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est de créer, de partager des choses qui font rêver les gens. Et pour moi, ça passe beaucoup par le côté esthétique. Donc, si vous voyez mon compte Instagram, vous verrez beaucoup de ce que j'essaye de faire, de belles photos, donc dans des beaux endroits, avec des belles tenues, d'assortir mes tenues aux endroits dans lesquels je vais. Et quand je visite, quand je découvre, déguste dans les nouveaux restaurants, j'aime aussi mettre en avant ce côté esthétique, faire des belles photos avec des belles assiettes. Et j'ai toujours adoré partager des restaurants autour de moi, que ce soit, enfin avant d'ailleurs, avant les réseaux sociaux, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler après dans notre discussion. Mais pour moi, un restaurant qui mérite d'être partagé, c'est un restaurant qui est non seulement bon, bien sûr, ça c'est la première chose, mais qui est aussi beau, qui prend soin dans sa décoration, qui prend soin dans sa présentation des assiettes et puis en plus qui est agréable. C'est-à-dire où les gens, où le staff du restaurant est accueillant, chaleureux et a envie de recevoir ses clients et n'est pas aigri.
Ça fait toute la différence.
Voilà.
On est d'accord. Et à Paris, il y a du tri à faire.
Il y a du tri à faire, c'est vrai. Surtout sur toutes les communications qu'on voit sur les nouveaux restaurants branchés, on va dire, où effectivement, il y en a qui souffrent un peu peut-être de leur fame et qui peuvent avoir un rapport avec leurs consommateurs qui ne soit pas...
Pas aussi accueillant que...
Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, voilà. Moi, j'aime beaucoup les beaux endroits et les bons endroits.
Et alors, c'est vrai que le beau, pour les gens que j'incite à aller voir tes comptes, effectivement, c'est très beau. Il y a beaucoup de couleurs, on est beaucoup dans les saisons. Et puis, il y a quand même une particularité de ces magnifiques robes que tu portes. Hein. Là, d'ailleurs, j'avoue être un peu déçue que tu ne sois pas en princesse.
Ah oui.
aujourd'hui.
Il y a moi sur Instagram avec les belles robes.
Et il
y a moi dans la vie quotidienne.
Dans les transports.
Dans les transports, exactement. C'est ce que les gens... J'ai souvent des petits moments marrants, des petits behind the scenes, oui, comme on dit, que je monte sur mon Instagram, où je montre le avant-après, donc comment j'arrive sur le lieu du photoshoot, ouais, avec mes vêtements un peu classiques et comment je révèle la robe sous le
sous
manteau,
la doudoune,
le gros pull, et bim, il y a la robe qui tombe. Et j'ai souvent des gens qui me disent, mais qui commentent sur les posts, mais pourquoi tu mets pas juste la robe, pourquoi tout ce cinéma autour du changement de tenue. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, je prends les transports en commun, je vais pas...
T'es pas en carrosse ?
Non, voilà, j'ai pas mes photoshoots en Uber, donc je prends le métro, la robe de princesse qui traîne par terre et qui s'abîme,
ouais, on est d'accord.
Donc voilà, et donc c'est vrai que quand on prend le métro et qu'on marche beaucoup, moi j'ai... Tiens, petit aparté, je suis des gens qui me disent, mais comment tu peux tout manger, ce que tu manges, ce qu'on voit sur ton compte Instagram et ne pas grossir ? Je monte les marches à pied, je fais beaucoup de marches à pied dans Paris, je prends les transports en commun, et ceux qui vivent à Paris savent combien il y a de marches à monter dans les métros. Et donc oui, il faut être confortable, et donc j'aime cette possibilité d'aller vite et de pouvoir être rapide entre deux rendez-vous. Donc voilà, j'ai ma tenue tout terrain aujourd'hui, jean, donc... petite bottine,
et pas de robe de princesse, même cachée sous le manteau.
Ah non,
mais bon, on a bien teasé, ça va donner envie à tout le monde d'aller voir ces fameuses robes de princesse, et aussi ces petites scènes où on te voit te changer qui sont assez rigolotes. Donc voilà, mais ça participe du coup de tout ton imaginaire et toute l'esthétique de ton compte. Avant qu'on embraye sur la pâtisserie, etc., moi j'aime bien aussi savoir d'où tu viens avant Paris. Mm-hmm. J'ai cru comprendre que tu étais du nord de la France.
Oui, c'est ça. Donc je suis née à Thionville, mais j'ai très vite déménagé.
T'as vu dans mon regard, moi je suis de Metz.
Ah, excellent, voilà.
Encore une Lorraine. Bon, ouais. Les gens qui écoutent ce podcast vont dire c'est pas possible, elle a fait exprès. Mais non, pas du tout.
Bah non.
Et on peut même pas dire que je t'ai reconnu à l'accent, puisque tu n'as plus du tout d'accent mosellan.
En fait, c'est chez
moi. Tu viens de l'Est.
Voilà, mon papa est alsacien, ma mère est champenoise.
Donc, t'es au milieu.
Voilà, mon père ayant travaillé dans la sidérurgie, effectivement, a commencé à côté de Metz, et ensuite a déménagé à Dunkerque, pareil, pour le côté sidérurgie.
D'accord.
Mais je suis arrivée à Dunkerque, j'avais 4 ans, donc pour moi, j'ai vraiment grandi là-bas, j'ai fait toute mon enfance là-bas, mes années d'école là-bas, ma jeune adulte, pareil, dans le nord de la France.
D'accord.
J'ai fait des études à Lille, et ensuite...
Tu as fait une école de commerce, hein, c'est ça ?
Exactement, ouais, ce qu'on appelle SCEMA aujourd'hui.
D'accord.
J'ai du mal à me faire au nouveau nom.
Au nouveau nom, hein.
Enfin, c'est pas un nouveau nom, mais c'était pas le même nom que quand j'étais à l'école. Mmh. Mais oui, SCEMA. Et ensuite, j'ai commencé à travailler plutôt dans l'Est de la France. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un rapport avec la nourriture, parce que, étant une grande gourmande, il y avait l'une des entreprises pour laquelle j'avais postulé en tant que jeune sur le marché du travail, c'est le groupe Mondelez, qui avait à mon époque, c'était Cadbury, donc Carambar, Créma, la Pie qui chante, le chocolat Poulain, les chewing gum Hollywood. Et voilà,
T'as travaillé pour eux ?
Et j'ai travaillé pour eux pendant 8 ans, ouais.
Ah, c'est drôle. Donc, Mondelez, il y a un rapport avec la suite du podcast, on en parlera.
Bon, tant mieux.
D'accord, donc ça, c'était ton premier job dans la gastronomie. Alors, dans l'industrie agroalimentaire.
Sur la partie commerciale et marketing B2B.
D'accord, ça nous fait un autre point commun, puisque je suis passée aussi par ce trajet marketing B2B, donc c'est drôle les points communs qu'on peut se trouver au hasard des discussions. Et donc, parce que j'ai fait un petit peu mes devoirs, du coup j'ai investigué un petit peu sur toi, tu as vécu un peu à l'étranger.
Oui, j'ai vécu Hollande. Exactement, pendant 2 ans à Amsterdam, entre 2016 et 2018.
Pour ton travail ?
Pour le travail, oui, pour ma carrière d'avant. Mm-hmm. J'ai adoré vivre là-bas. J'étais contente. En fait, c'est arrivé à un moment où, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup le voyage. J'aime beaucoup échanger avec des gens des étrangers. Et dans ma carrière, je n'avais pas eu l'occasion d'avoir cette partie de travailler à l'étranger. C'est quelque chose qui me manquait vraiment dans mon parcours. Enfin, pour moi, en fait, c'est quelque chose qui me manquait. Et donc, j'ai eu cette opportunité d'avoir un contrat là-bas. Et donc, je suis partie travailler là-bas pendant 2 ans. Et c'est arrivé aussi un moment où j'étais un peu fatiguée, en fait, de Paris, des transports, de la voiture. Je faisais beaucoup de transports en voiture avant. Et j'avais envie, justement, de quelque chose de différent. Mm-hmm. Et ces 2 ans à Amsterdam, c'était vraiment...
Ah, c'était Amsterdam.
Oui, c'était Amsterdam, ah, ouais.
Donc en plus, c'est vrai qu'il y a de tout. Hein. Tu aurais pu être à Rotterdam et c'était vachement moins
oui,
fun.
Oui, non, c'est... Non, mais... ouais, Amsterdam, c'est vrai, c'est charmant. C'est une capitale à taille humaine. On fait tout à vélo. C'était une petite bulle de respiration dont j'ai eu besoin à ce moment-là.
Avant de te lancer, du coup.
Oui, du coup, avant de me lancer, ouais.
C'est suite à ça que t'as décidé d'arrêter.
Il y a eu un, comment dire, quand je suis, il y a une différence entre au moment où j'ai intégré la business unit pour laquelle je suis allée travailler et le moment où je suis partie, c'est qu'il y a eu un changement en interne qui a provoqué, en fait, moi, une remise en question, en fait, de mon épanouissement personnel dans le monde corporate. Suite à ça, j'ai décidé, finalement, de quitter le monde corporate complètement et de faire autre chose à mon compte. Je ne savais pas quoi.
Mais tu ne savais pas quoi.
Non, voilà.
Ça, c'est quand même très courageux de se dire que... Mais en même temps, tu as su écouter ton ressenti.
Ouais, je pense que c'est surtout ça, ouais. Ça aurait été plus difficile pour moi de rester dans quelque chose qui ne me correspondait plus que de partir... trouver quelque chose de nouveau, même si c'était en point d'interrogation.
Ouais. Et c'est là que tu t'es formée à la photo ?
Alors, à l'époque où je vivais à Amsterdam, ça va rebondir sur le restaurant, parce que avant de déménager à Amsterdam, donc comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé tester des restaurants à Paris. Et j'avais créé un groupe sur Facebook avec mes amis parisiens où je partageais tous les restaurants que je faisais qui méritaient d'être partagés. Et quand j'ai déménagé à Amsterdam, bah forcément, je ne pouvais plus alimenter ce groupe de restaurants à Paris puisque je ne vivais plus à Paris, je ne pouvais plus tester de restos à Paris. Et je testais des restaurants à Amsterdam et bien sûr, mes amis parisiens, ça ne les intéressait pas forcément dans leur quotidien. Donc, je me suis dit, bon, je vais créer un compte Instagram. Parce que là, des gens qui ne me connaissent pas pourront découvrir des adresses que j'ai envie de partager. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure sur Instagram. Et bah, au fur et à mesure, donc, j'ai partagé un peu de photos de food, un peu de photos de paysages, un peu de photos de moi. Et voilà, c'est comme ça que c'est devenu quelque chose d'un peu différent, ce qui est aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Et là, j'ai perdu le fil de mes pensées et de la question.
Moi, je te demandais si... c'est là que tu t'étais formée à la photo.
Ah oui. Donc, à cette époque-là, j'étais en couple avec un photographe qui, lui, m'a appris donc, les bases de la photographie. Donc, comment utiliser un appareil photo, pas en automatique, voilà, mais en utilisant les ISO, l'ouverture, la vitesse. Donc, c'est lui qui m'a appris les bases. Et ensuite, j'ai pratiqué. Et comme quand j'ai démissionné, j'avais beaucoup de temps libre, du coup, j'ai pu passer plus de temps à faire des photos, à les faire dans des meilleures conditions de lumière, par exemple au lever du soleil où la lumière est beaucoup plus belle et il n'y a pas trop de monde dans les rues, et à me perfectionner sur ma retouche de photos. Donc, ça a été vraiment, comme j'avais plus de temps libre, bah, j'ai consacré ce temps libre à mes passions et puis au final, voilà, je me suis perfectionnée.
D'accord, et tu as appris vraiment sur le tas en pratiquant.
Oui, carrément,
D'accord. Super, super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font ce... Quand on est dans la food, qui font ce... J'ai l'impression aussi ce passage d'un moment, passer de son téléphone à du vrai matériel et faire vraiment quelque chose de beaucoup plus beau pour encore plus mettre en valeur les choses. Hein.
Et... Surtout que moi, à l'époque, il faut dire que j'ai commencé, c'était vers 2016-2017. Les téléphones, ils ne faisaient pas du tout le travail d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ça faisait... Enfin, à l'époque, faire des photos au téléphone, ce n'était pas de bonne qualité. Donc, en tous les cas, il fallait un appareil photo.
D'accord.
Ce qui est vrai que c'est différent aujourd'hui.
Oui. Mais on voit quand même... c'est un autre travail, je pense aussi, après, de vouloir retoucher, de prendre des photos avec son appareil. C'est une autre approche.
C'est vraiment... C'est très différent. Et moi, je le vois parce que... Autant que c'est marrant parce que j'ai des approches différentes entre la food et le contenu que je poste sur mon Instagram. Quasiment tout le contenu qui est sur mon feed Instagram est pris à l'appareil photo, sauf les vidéos. Les vidéos, je les fais toujours au téléphone, mais tout ce qui est photo sur mon feed est pris à l'appareil photo. Tout ce qui est dans mes stories est pris au téléphone, en général, parce que ça permet d'être plus rapide, spontané. Même si je retravaille souvent les photos que je partage en story en termes de retouche de couleurs et de contraste et de lumière. Mais par contre, pour la food, je sors plus souvent dans les restos avec mon téléphone qu'avec mon appareil photo. Et je fais souvent mes photos, enfin tout ce que je partage autour de la food, dans mes stories, ça va plutôt être pris au téléphone.
D'accord.
Pour plusieurs raisons. Enfin, la première, c'est que j'ai pas forcément envie de m'embêter avec mon appareil photo quand je vais déjeuner ou dîner. Et aussi, je sais que en termes de basse, quand les lumières sont basses, par exemple, quand on va dîner dans les restos, surtout en hiver, le téléphone est plus pour attraper les tons très sombres. Finalement, le téléphone peut faire un meilleur travail que mon appareil photo où alors il va falloir retoucher la balance des blancs, voilà.
Ouais, d'accord.
Il va y avoir un peu plus de travail sur la partie photo. Bon, voilà, c'est vraiment de la facilité, hein, parce que...
Oui, puis le moment aussi, quand t'es dans un restaurant, c'est peut-être aussi compliqué, si t'es avec des amis, sortir l'appareil... Est-ce que parfois, tu as des gens autour de toi qui disent « Bon, maintenant, ça suffit, tu prends trop de temps. »
Alors, en général, les gens qui viennent avec moi au resto savent. Donc, soit c'est des autres créateurs de contenu et on fait tous la même chose. Donc, voilà, ça dérange personne. Ou alors, ils savent. Et surtout par exemple, avec mon statut, j'ai la chance d'être invitée souvent dans des restaurants. Si je suis invitée dans un restaurant, il faut que je le partage derrière. Oui. Ça fait partie du deal, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je sélectionne mes restaurants pour pas aller dans des restaurants qui vont me décevoir et que je serai obligée de partager quelque chose qui m'a déçue. Donc, en général, je vais dans un restaurant où je suis sûre que je vais pas être déçue. Mais du coup, la personne est invitée avec moi. Donc,
voilà. Ça va, elle dit rien.
Ouais,
elle patiente.
Voilà, c'est ça.
C'est le prix du...
Exactement, c'est le
prix
de l'invitation.
Mais justement, je rebondis là-dessus. Donc, t'es pas mal sollicité, j'imagine. Et donc, t'essayes de présélectionner, effectivement, pour être sûr que ce que tu vas vivre, ce sera quelque chose que tu pourras partager derrière de manière authentique et pas faire de la pub pour quelque chose qui te plaît pas.
Ouais.
Est-ce que quand même, parfois, ça peut t'arriver? Et dans ces cas-là, bon, c'est un peu le jeu aussi de la personne qui t'invite de dire si ça n'a pas plu, tu posteras pas. Comment tu gères un peu ce truc-là?
Alors, sincèrement, ça m'est arrivé, mais extrêmement rarement, à tel point que je réfléchisse au peu de fois où ça m'est arrivé, parce que les agences avec lesquelles on travaille ou les restaurants qui nous contactent en direct, en général, c'est des restaurants qui, s'ils invitent des influenceurs, c'est qu'ils savent qu'ils ont de la qualité à proposer. Enfin, sinon, parce que c'est à double tranchant, hein, effectivement. Si on invite quelqu'un qui a une audience, la qualité de la cuisine n'est pas à la hauteur, on peut penser qu'effectivement, la personne, elle a aussi son audience pour partager. Moi, alors, ça m'est jamais arrivé. Je pense pas que ça m'est... Enfin, j'arrive pas à me souvenir une fois où ça m'est arrivé, où c'était vraiment pas bon, immangeable et impartageable, du coup. Mais je pense que dans ce cas-là, je le partagerai pas. Ça m'est arrivé que ce soit pas exceptionnel. Dans ces cas-là, en fait, je partage l'adresse, mais il n'y a pas d'emphase autour pour dire « Oh là là, c'était génial ». Enfin, je ne dis pas « c'était génial » si ce n'était pas génial, quoi.
D'accord, oui, oui.
Sinon, je suis là, bon, bah, voilà ce qu'on a mangé.
Oui, bon, c'est vrai que sinon, ça perdrait toute la valeur, en fait, de ton témoignage vis-à-vis des gens qui te suivent et qui te font confiance. Mais il y a toujours un peu ce dilemme. Ouais.
Non, mais je fais beaucoup, en fait, je ne vais pas au restaurant pour dire de manger au restaurant. En fait, moi, je travaille tout le temps. Je travaille, on en parlait à mon arrivée, parce que je disais que j'avais pas mal de travail la journée du samedi, qui est en fait la journée du 11 novembre. Et donc, tu me faisais la réflexion en me disant que j'avais pas de jour férié. Mais non, moi, j'ai pas de jour férié, j'ai pas de week-end. Je travaille du matin au soir, je travaille le soir jusqu'à 1h30 du matin. Pas tous les soirs, mais ça m'arrive souvent. Et du coup, si je prends de mon temps de travail, parce que pour moi, une soirée, je peux retoucher, je peux écrire un article de blog, retoucher des photos, voilà. Donc, c'est du temps précieux. Donc, si je prends de ce temps pour sortir dîner quelque part, il faut que l'adresse en vaille la peine. Et donc, je fais beaucoup de tri en amont. Voilà. Oui. Mais pour être honnête, je ne reçois pas beaucoup non plus d'invitations de restaurants qui ne méritent pas d'être visités.
Oui. Ouais. Oui, bah, je pense que effectivement, il y a quand même un gros travail des agences pour faire en sorte de mettre en avant des choses qui sont vraiment bien, vraiment novatrices, et puis qui vont aussi avec le type de contenu que toi tu peux partager.
Oui,
quoi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà, j'imagine que tu vas pas être contactée par des fast-foods ou.
Alors en direct, ça peut arriver, mais après c'est pas forcément moi mes adresses de prédilection, quoi. C'est après chacun sa cuisine préférée. J'avoue que le fast food c'est pas ma cuisine préférée.
non mais bon, c'est bien d'avoir cette ligne directrice. Bon, bah écoute, on a fait un petit tour de ton parcours. On va revenir un petit peu sur ta personnalité, sur toi, et puis on arrivera un petit peu sur ton enfance aussi. Est-ce que tu te définis comme quelqu'un de gourmande ? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton rapport à la gastronomie salée et sucrée, hein ?
Ouais, alors, je suis très gourmande. Je pense que les gens qui me connaissent le savent très bien. Je l'assume complètement. Je suis très sucrée. Mm-hmm. Je l'assume complètement aussi.
Oui, il faut l'assumer.
Ouais, donc oui, j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé bien manger. Et oui, j'ai un faible pour tout ce qui va être chocolat, plutôt noir. Et les pâtisseries, c'est vraiment, c'est vraiment mon péché mignon. D'ailleurs, je précise que je goûte tous les jours comme les enfants. Donc j'ai vraiment.
C'est important
mon petit rituel de goûter avec ma tasse de thé. Et, alors le goûter le plus simple, ça va être tasse de thé et petit carré de chocolat noir. Et sinon, ça peut être une pâtisserie, un cookie. Voilà.
D'accord. Et après derrière, tu montes les marches.
Voilà. C'est ça.
Mais ça, c'est la question qui revient souvent pour les gens qui sont notamment dans la pâtisserie, plus que dans la gastronomie en général, parce qu'il y a cette espèce de truc associé au sucre qui, dans l'inconscient des gens, signifie tout de suite on va prendre des kilos.
Ouais.
Bah, pas forcément, hein. Donc c'est une question de modération, j'en reparle souvent dans les épisodes.
Et souvent, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils voient sur mon Instagram, le jour où j'ai partagé une story de restaurant où j'ai mangé entrée, plat, dessert, pensent que ça, c'est mon régime alimentaire au quotidien. Alors non, bien sûr, ça m'arrive en voyage presse, par exemple, d'avoir des moments où je vais manger au restaurant le midi et le soir 4-5 jours d'affilée. Mais sinon, quand je suis à Paris, c'est pas mon régime alimentaire de base. Et je me fais toujours plaisir quand je vais au restaurant, mais je mange pas chez moi entrée, plat, dessert, pas du tout. Moi, je ne veux pas entrer plat dessert. Et par contre, oui, je goûte tous les jours. Et mes deux repas préférés dans la journée, c'est le petit déjeuner et le goûter.
D'accord.
Mais derrière, je fais du sport. Je marche beaucoup dans les rues de Paris. J'habite au 5e étage et je ne prends jamais l'ascenseur. Je monte toujours à pied.
Tout ça, c'est une activité permanente. Importante, non, je comprends bien. Et du coup, t'es plutôt gourmande aventureuse ou finalement, tu manges un petit peu tout le temps les mêmes choses ? Alors, aventureux, j'imagine, par ton métier, tu découvres des choses. Ouais. Mais toi, ton appétence principale, c'est plutôt ce que tu connais déjà ou...
Alors, j'aime bien, moi, tester des choses nouvelles que je ne connais pas, des cuisines, par exemple, quand je voyage. La gastronomie, quand on voyage, pour moi, ça fait vraiment partie de la découverte d'un pays. Donc, j'adore tester les cuisines et les spécialités locales. D'ailleurs, que ce soit en France ou à en France, c'est valable aussi, hein. Et après, bien sûr, on a des goûts personnels qui font que, bien sûr, je vais revenir sur des choses que j'aime bien manger. Par exemple, chez moi, au goûter, c'est rare que je vais me dire, tiens, je vais tester telle spécialité pour mon goûter du quotidien.
D'accord.
Alors là, je vais plus revenir sur des choses que j'ai l'habitude de manger et que j'aime bien. Mais par contre, si je suis dans un resto ou si je suis en voyage, c'est vrai que le voyage, c'est vraiment là où on va pouvoir être plus aventureux sur le côté gastronomique parce que c'est là où on est confronté à des choses qu'on n'a pas l'habitude. J'aime bien goûter. Après, pour la partie dessert, j'avoue quand même que les desserts français,
on y revient.
C'est quand même les meilleurs à mon opinion.
D'accord. Et j'imagine que tu as pas mal voyagé, donc tu as pas mal de points de comparaison.
Oui,
ça reste quand même quelque chose sur lequel on est quand même plus fort en France sur en tout cas sûrement sur là où il y a le moins d'écart entre ce qu'on peut voir dans les championnats et ce qu'on peut voir dans les boutiques. On me cite souvent, il y a plein de nations qui ont déjà gagné la Coupe du Monde de pâtisserie. C'est pas pour autant que dans les boutiques que les gens fréquentent tous les jours, on est vraiment le même niveau d'excellence. Ouais. Alors que quand on se promène dans Paris et pas qu'à Paris, on voit des très belles choses en France.
Même dans la boulangerie du quartier, on peut trouver des trucs très très, enfin des pâtisseries très très bonnes ou des petites viennoiseries très très bonnes. Mais c'est vrai que en fait, ça dépend dans quelle partie du monde on va. En Europe, c'est quand même, on trouve quand même des très bonnes choses sucrées dans nos pays voisins. Moi, j'adore l'Italie. Les desserts italiens sont délicieux. Les gelatos, les tiramisu. Oui. Il y a rien à redire là-dessus. Il y a des super bons desserts.
Tu dis dessert.
Ouais.
Pas pâtisserie.
Ça dépend.
Est-ce que c'est vrai qu'en pâtisserie, c'est-à-dire quelque chose que tu puisses emporter dans une boîte chez toi ou manger ailleurs ou vraiment le côté pâtisserie, donc avec de la pâte, c'est moins leur truc.
Ouais. Bah oui, par exemple, enfin, voilà, l'Italie, j'ai cité le tiramisu et les glaces. Voilà, j'allais partir en Angleterre, j'adore les scones, je trouve ça super bon, les scones. Bon, effectivement, c'est aussi pas une, c'est pas non plus une pâtisserie. En Allemagne, ils ont des bons gâteaux, type strudel, avec, ou des gâteaux avec du sésame noir, ou enfin des choses comme ça. Mais, enfin, ouais, c'est vrai que. Et après, enfin, voilà. Aux États-Unis, alors, ça va souvent être très sucré, mais on peut quand même trouver des choses qui sont très.
C'est quand même eux qui ont inventé le marbré et les cookies. Ouais, hein. Faut leur rendre ça.
Oui, les cupcakes sont délicieux. Oui. les cheesecakes sont trop bons. Voilà. Mais, par exemple, les endroits où c'est plus difficile pour moi, c'est par exemple, j'adore voyager en Asie. Mais oui. Alors, typiquement, en Asie, type Asie du Sud-Est, les desserts, c'est pas ça, quoi.
D'accord.
Là, ça me manque vraiment le dessert traditionnel français, la pâtisserie française.
Oui.
Donc voilà, je mange plus de fruits, mais du
le
coup,
retour en France doit être attendu pour ça.
Mon chocolat.
Je veux comprendre. Et le Japon, t'as déjà fait ?
Oui, deux fois, j'adore.
Et alors du coup, la pâtisserie japonaise ?
Alors, la pâtisserie japonaise, les Japonais sont très très forts, et d'ailleurs ils sont très inspirés des Français,
oui.
Donc ils ont vraiment des belles créations qu'ils mettent en avant, donc que ce soit des choses qui sont inspirées de la France d'ailleurs, sur des pâtisseries qui vont être présentées là-bas, qui seront adaptées avec les goûts locaux, mais quand même inspirées de créations françaises, ou la pâtisserie qui va, enfin pâtisserie dessert, qui va être plus local avec des très jolies créations, mais plus à base de haricots rouges, de matcha, de
farine de riz gluant.
Voilà, de sakura, enfin de fleurs de cerisier, où c'est des très très belles créations. Mais en termes de sucre, c'est beaucoup plus neutre en termes de goût. C'est moins sucré. Et moi qui aime bien la partie sucrée, je vais pas forcément m'y retrouver. Donc, il y a des choses très belles, très très belles et très bonnes aussi. Mais
Moins dans tes goûts.
Pour moi, il manque la partie gourmande, en fait.
D'accord.
Gourmande,
du côté
sucré. Ouais, voilà.
Et la texture, elle te plaît ? Dans ces pâtisseries-là, parce que c'est aussi parfois.
Alors si c'est les choses qui sont plus traditionnelles, c'est moins mon truc. J'avoue, par exemple, le mochi, bon, moi c'est pas mon truc du tout.
La texture te plaît pas
Ça me fait pas rêver, quoi. Je préfère croquer dans une pâte sablée. Je préfère. Mais enfin, au Japon, il y a un truc que j'adore. Alors c'est pas vraiment un dessert. Moi, je vois ça plutôt comme quelque chose qu'on mange au petit déjeuner ou au brunch. C'est les fluffy pancakes. C'est espèce de pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des pancakes qui sont épais mais soufflés, qui sont vraiment très très délicats, qui sont, et ça c'est trop trop bon. Bon voilà, après c'est un dérivé d'une recette,
mais avec toujours ce côté très moelleux, très aérien,
voilà, très aérien et tout. Donc ça j'adore. Bon après oui, c'est pas ça vient du Japon, mais c'est pas une création locale comme on pourrait penser un mochi ou comme une pâtisserie à base de matcha ou le gulche, je pense au gâteau mille crêpes, je sais pas si c'est japonais ça, ou en tout cas c'est de l'Asie du Sud-Est, ou ça va être voilà des recettes plus vraiment typique de l'Asie en général. Mais ouais, je pense que c'est le côté sucré gourmand qui
peu,
me manque. Ouais, moi j'aime la vanille, le chocolat, le praliné.
Donc
c'est dingue de praliné.
Ah là là, ouais, ne m'en parle pas. C'est terrible, le praliné. c'est difficile hein, de s'en passer. Mais non, mais c'est hyper intéressant de voir, toi qui as vu beaucoup de pays et goûté plein de choses, que tu reviens du coup à ces choses traditionnelles françaises et qu'on a quand même ce truc-là en plus.
Ah donc oui, carrément.
Ça, c'est plutôt chouette. Ça te vient d'où cette gourmandise ? Ça a toujours été...
Ça a toujours été là.
Depuis petite, la petite Ophélie, alors, elle était gourmande.
Toujours. Et d'ailleurs, c'est très... dans ma famille, on est tous gourmands. Donc,
gourmande sucrée.
Ouais. Ouais, mes parents aussi, mon frère aussi, on aime bien s'offrir des chocolats, par exemple, pour les anniversaires ou pour Noël. On avait notre petite tradition familiale du week-end ou par exemple le dimanche après-midi, ayant grandi à Dunkerque, on allait faire une petite marche sur la digue, donc en bord de mer. Et souvent, on s'arrêtait dans un petit café, soit pour manger des pâtisseries ou pour manger des gaufres. Ou alors, mes parents allaient passer à la boulangerie et on allait faire un goûter tous ensemble. Et d'ailleurs, mes parents goûtent aussi.
C'est vrai. Ah, donc le goûter, une tradition familiale.
Ouais, vraiment, mais vraiment. Donc oui, ça vient depuis que je suis enfant, quoi.
D'accord. Et tu continues de cultiver ça.
Ah oui, avec grand plaisir.
Alors on dit que la gourmandise est un vilain défaut. Qu'est-ce que tu penses de ce de cette phrase, de ce...
Bah, en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas un défaut, c'est juste quelque chose qu'on apprécie. Alors, chacun, on va dire, chacun son péché mignon. Il y a des gens qui aiment... Moi, j'ai une amie qui est fan de frites, qui adore manger des bonnes frites. Il y a des gens qui adorent les gâteaux apéro. Il y a des gens qui apprécient l'alcool. Il y a des gens qui apprécient d'autres choses. Moi, voilà, mon péché mignon, ça va être le chocolat ou les desserts et les pâtisseries. Je pense que c'est pas un défaut dans la mesure où, ce qu'on disait tout à l'heure, on en mange avec modération. Et surtout, si on fait du sport en parallèle pour être bien dans son corps, en fait. Après, c'est... Moi, je sais que j'aime bien aussi être bien dans mon corps. Donc, si je sens que je commence un peu à être moins à l'aise dans mes pantalons ou dans d'autres vêtements que je vais porter, tout de suite, je vais me dire, je vais faire plus de sport.
Oui.
Mais enfin, parce que souvent, ça arrive dans des périodes de la vie où effectivement, moi, j'aime bien faire mon sport le matin quand je me lève. Et si j'ai des séances photos pour moi ou pour des clients, parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais je fais aussi des séances photos pour des clients particuliers, c'est pas forcément le matin, mais c'est très souvent le matin. Donc, ce qui fait que je me coupe de ma séance de sport. Et si j'ai enchaîné 10-15 jours comme ça, où soit j'étais en voyage presse, ou soit où j'avais beaucoup de photoshoots, j'ai moins la possibilité de faire du sport. Et souvent, j'aime y revenir pour me sentir bien pour pouvoir effectivement manger comme j'ai envie de manger, quoi.
Oui, c'est une question d'équilibre.
C'est ça. Avoir une bonne... Si tu parlais d'hygiène de vie, c'est ça, avoir un bon équilibre, c'est-à-dire se faire plaisir, mais tout en étant en accord aussi avec son corps. Et c'est...
Oui. Et c'est pas forcément faire du sport pour pouvoir manger des gâteaux.
Non, j'aime bien faire du sport.
Voilà. Non, mais parce que il y a des gens qui peuvent un peu tomber dans ce truc-là de se dire, il faut vite que je fasse du sport parce que j'ai mangé des gâteaux, etc. Et là, le rapport peut être un peu pervers, en fait, entre les activités. Or, si on décomplexe un petit peu de tout ça, c'est sain pour le corps et pour l'esprit de faire du sport, comme c'est sain aussi de se faire plaisir avec de la nourriture qui nous plaît, quoi.
Ouais, voilà. Donc, Moi, je sais que les mois où on était en confinement, la nourriture, c'était le seul plaisir qui me restait, quoi. Moi, j'ai vécu toute seule mes confinements.
Dans un studio à Paris.
Ouais, dans un studio à Paris. Franchement, pas drôle, quoi.
Et t'as pas eu envie de partir après, de Paris ?
Ah non.
Non ?
Non, en fait, j'aime déjà la majeure partie de mon travail, je le fais à Paris. Enfin, je veux dire, je suis blogueuse voyage, mais j'aime aussi me présenter comme... like your local expert if you're coming to Paris. Donc j'aime bien être pour les gens qui ne sont pas de Paris, notamment les étrangers, me présenter comme votre référence locale qui va vous donner tous les bons plans. Bon, pour les touristes, c'est pas la même chose que les bons plans pour les locaux, les Parisiens, voire les Français qui viennent à Paris de temps en temps. Mais c'est leur montrer la beauté de Paris, les beaux endroits, mais aussi les bons restaurants, parce que c'est la gastronomie française, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment voyager et venir à Paris et en France.
Oui, donc c'est une question de crédibilité finalement pour toi de vivre dans Paris pour pouvoir aussi...
Oui, et surtout par exemple parce que j'ai une grosse partie de mon activité aujourd'hui qui est liée à faire des séances photos pour des clients. Oui. Et donc si je suis pas à Paris, je peux pas.
Oui, tu vas te...
Donc ça, je me couperais une partie de mon business, quoi.
Ou tu pourras habiter en banlieue, mais là c'est du temps de trajet, etc.
Oui, ouais. Ça, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser aujourd'hui. Mais sachant que je fais beaucoup de séances photos très tôt le matin, s'il faut que je rajoute du temps de RER ou du temps de voiture plus long, ça pénalise mon sommeil.
Qui est déjà, de ce que j'ai compris, pas très... Tu dors pas énormément?
Oui, je travaille souvent tard. Après, les jours où j'ai rien de prévu, je mets pas de réveil.
D'accord.
Donc, je peux me coucher à 1h30, mais je vais me réveiller naturellement vers 8h30. Bon, donc ça va, j'ai fait pour moi, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Mais si je me couche vers minuit et demi et que je me lève à 5h du matin, je confirme que là, je suis en manque de sommeil. Donc forcément, il me faut des journées dans la semaine où je peux rattraper.
D'accord.
Et donc, si plus j'habite loin, forcément...
T'as moins de flexibilité là-dessus.
Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour.
Donc, même le confinement dans un studio à Paris n'est pas venu à bout de cet amour pour Paris.
Ouais.
Et la nourriture, effectivement, a aidé pas mal de gens. Et à aider aussi les gens à retrouver le goût de faire des choses eux-mêmes.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que tous les
côtés positifs.
Je connais pas mal de personnes qui sont des blogueurs food qui ont utilisé, enfin qui ont été propulsés. Leur compte a été propulsé en avant avec des
recettes
ouf parce que effectivement ils partageaient des recettes.
Alors on a parlé de ton enfance, de tout ça. Est-ce que tu peux me dire quel est ton, alors ce sera peut-être en Lorraine ou peut-être dans le Nord, ton premier souvenir sucré. C'était quand? C'était où? C'était avec qui? C'était quoi? Loin que tu te rappelles.
J'essaie de me souvenir. Donc ouais, c'est difficile de me souvenir, d'avoir un vrai souvenir en particulier, mais il y a des desserts qui ont marqué mon enfance, qui étaient liés aussi à des moments de famille et de bonheur simple, en fait, quand on est enfant. Donc je pense qu'il y a un gâteau, par exemple, que ma maman a fait pas mal pour nos anniversaires. Alors, je précise nos anniversaires parce que mon frère et moi, on a 2 jours d'écart. Donc, je suis du 24 octobre et mon frère est du 22. Et donc, ça nous est souvent arrivé de fêter nos anniversaires ensemble, à la maison, avec un goûter, par exemple. Voilà. Et il y a un gâteau que ma mère faisait à cette occasion, mais aussi à d'autres moments dans l'année, mais qui s'appelle le thé brun. Enfin, c'est un gâteau à base de biscuits thé brun. Donc, les biscuits thé brun, c'est comme un peu comme des petits beurres. Mmh. Et donc, ma mère faisait un gâteau à partir de ça, qui fait partie de mes souvenirs d'enfance. Alors, là, quand tu me dis c'est quoi ton premier souvenir sucré, je pense que c'est possible que ce soit celui-là.
Elle faisait ça souvent ou c'était vraiment pour les anniversaires, choses comme
Alors, ma mère nous a toujours fait des repas maison et a cuisiné beaucoup de gâteaux, de desserts, voilà. Donc, elle faisait celui-là, pas spécialement que pour nos anniversaires, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs de photos que j'ai vues dans les albums photos qu'on faisait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les téléphones. Donc, on avait des petites photos imprimées que nos parents avaient gardées en souvenir et fait un album de photos d'enfants. Et donc, je vois encore des photos où on souffle nos bougies jeunes enfants sur ce gâteau. Ouais.
D'accord. Et est-ce que dans ta famille, pareil, il y a cette tradition de voyage et de gourmandise aussi et de découverte, en fait?
Alors, de voyage un peu moins. En fait, avec mes parents, on n'est pas partis beaucoup en vacances. Parce que déjà, on n'avait pas les moyens non plus de partir en voyage, surtout loin à l'étranger, parce que c'est un budget, on ne va pas se mentir. Donc, j'ai fait pas mal de petites découvertes en France et en Europe avec mes parents, mais c'est pas de eux directement que me vient cette passion du voyage. Par contre, je me souviens l'avoir eu étant assez jeune. Je me souviens avoir adoré mes voyages scolaires.
D'accord.
Donc, j'ai fait des petits voyages scolaires en Allemagne, en Angleterre, parce que je dis Allemagne parce que j'ai fait allemand en première langue étrangère.
Même si tu n'habitais plus en Lorraine.
Oui. En fait, mon père, pour deux raisons. La première, c'est que mon père, étant alsacien, parle allemand couramment.
D'accord.
Donc, lui, il avait déjà l'allemand, pour lui, c'était une langue noble qui méritait d'être apprise. Et aussi parce qu'à l'époque, ça permettait dans meilleures classes. Ouais. Et j'avais des bons résultats à l'école. Donc,
tu es une germaniste.
Voilà, mais aujourd'hui j'ai perdu tout mon allemand parce que je le pratique pas. Donc à l'inverse de l'anglais, parce que tout mon contenu je le crée sur les réseaux sociaux et sur mon blog, je fais tout en anglais. Donc à l'inverse de l'anglais que je pratique tous les jours, mon allemand je le pratique plus depuis mes études, en fait. Après mes études, j'ai arrêté de le pratiquer, donc j'ai tout perdu.
Mais du coup, t'as voyagé avec l'école?
J'ai voyagé un peu avec l'école et mes voyages, je disais Allemagne, Angleterre, Italie, c'est des voyages, à chaque fois je revenais enchantée, émerveillée.
C'est des super souvenirs quand t'es ado, en fait, ce genre de voyage.
Exactement.
Ça crée plein de bons moments qu'on se remémore après. Ok. Eh bien, écoute, tu m'as parlé de ce gâteau, effectivement. Alors, on a fait beaucoup de théories sur la dégustation jusqu'à présent et sur la gourmandise.
Ouais.
On va passer à la pratique.
D'accord.
Pour cette deuxième partie, je t'ai demandé donc ton gâteau d'enfance en amont. Et alors, ce que tu ne savais pas, et c'est tant mieux, c'est qu'il y a toujours une partie pratique où je ramène quelque chose que j'ai fait moi-même.
Ah.
Et voilà. Donc, il y a une petite boîte blanche devant toi. Je vais te demander de l'ouvrir, de nous décrire ce que tu y trouves.
Ah, bah oui, je reconnais.
Tu reconnais.
Le fameux gâteau thé brun.
Voilà. Alors, pour les explications, on va dire que c'est pas le gâteau le plus esthétique que j'ai pu faire
c'est vrai.
Dans ma vie. Hein. Ce gâteau m'a donné beaucoup de... fil à retordre, bizarrement, parce que sur le papier, c'est pas du tout compliqué
non.
à faire. Donc, c'est des biscuits bruns. Et alors, tu parlais de Mondelez tout à l'heure. C'est la marque Mondelez, en fait, biscuits.
Eh ben, je sais, je me souvenais même pas. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas bossé sur la partie biscuits.
Eh ben, c'est eux qui le font. Tu vois, il y a un lien. Tu étais prédestiné à travailler pour cette boîte à un moment dans ta vie. Donc, ce sont des biscuits qu'on imbibe. Je vais te l'expliquer.
Ouais. Oui, parce qu'en fait, voilà. je l'ai pas fait récemment, mais c'est vrai que je l'ai fait quand même plusieurs fois moi-même.
Ouais.
Donc, c'est un peu comme un tiramisu où on va imbiber les biscuits à la cuillère dans du café. Bah, là, c'est pareil, sauf qu'on le fait avec les biscuits thé brun. Et ensuite, on met une couche. Alors, c'est beurre, œuf, sucre. Voilà. Donc, c'est un gâteau qui est fait avec une couche de... un étalage de biscuits en carré. En général, on fait ça dans un carré. Donc, on imbibe les biscuits. Ensuite, on met une couche. C'est beurre, jaune d'œuf et sucre qu'on mélange. On fait une couche de ça. On remet une couche de biscuits. On remet une couche, voilà. Et ensuite, la dernière couche, on vient mettre du chocolat râpé.
Voilà. Bon, bah alors, écoute, c'est exactement ça. Alors, je ne l'ai pas fait en carré parce que je voulais, au départ, le faire dans un moule. Enfin, j'avais plein d'idées. J'ai beaucoup galéré, bizarrement, alors que vraiment, c'est hyper basique. Et j'étais un peu vexée, d'ailleurs. J'ai quand même passé mon CAP et je me dis, ce truc me donne du fil à retordre. Ensuite, donc, il était très beau. J'ai pris des photos avant de le mettre dans sa boîte parce qu'il était bien droit, bien dressé. Ouais. Et après, il a fallu que je le mette dans une boîte pour le transporter.
Sûr, transport,
je te montrerai les photos.
Non, mais je te crois sur parole.
Mais voilà. Bon, est-ce que ça ressemble, hormis il n'est pas carré, est-ce que ça ressemble un petit peu à celui
moi,
de...
Moi, je ne mets pas le... La dernière couche, je ne mets pas le... C'est une couche de biscuit, en fait, chez moi.
Ah, d'accord. Alors, sur la recette du journal des femmes que tu m'as envoyé, il disait de finir par une couche de crème.
Ok, ouais. Alors, voilà, c'est la seule différence, mais sinon, il a l'air de ressembler exactement à celui que je fais.
Mais écoute... je vais te laisser prendre une part et le goûter. Et puis nous expliquer un petit peu si ça ressemble un petit peu à ce que tu mangeais quand tu étais enfant. Bon, et ce qui est bien, c'est que c'est assez, assez facile quand même à préparer, même je dirais avec, avec des enfants et tout.
Ah oui,
ce genre de gâteau.
Ouais.
Tu participais, toi, à la confection de ton gâteau ?
Oui, en fait, ma maman nous a toujours appris à aider sur les tâches ménagères.
Oui.
Et donc, y compris quand elle faisait la cuisine, si on était dans les parages, elle était contente d'avoir un petit coup de main.
Des petits commis.
Voilà. Et puis, moi, j'ai toujours bien aimé faire des gâteaux. Donc, voilà, ça ne m'a pas trop dérangée.
Alors, ce gâteau n'est pas du tout Instagrammable.
Non, il n'est pas Instagrammable, ça, c'est clair.
Alors, du coup, est-ce que le... Bon, le visuel, c'est pas très beau, mais est-ce que c'était aussi moche dans ton enfance?
Oui, oui. Alors, il n'y a pas de... on n'est pas du tout sur quelque chose qui est Instagrammable.
Ouais.
Ça, c'est clair.
Ce n'est pas le fleuron de la pâtisserie française, soyons clairs. Les Japonais ne vont pas nous piquer ce truc.
Non.
Personne dans le monde. On va le garder, je pense. Est-ce que ça sent quelque chose de particulier? Est-ce que t'as...
Bah ouais, en fait, en général, c'est l'odeur du chocolat râpé.
Chocolat râpé. Ouais, alors, il a été râpé ce matin avant de partir.
Ouais, ouais.
Et c'est un chocolat Valrhona.
Ah, super.
Bon, écoute, je te laisse goûter.
D'accord.
Tu me diras...
Non, mais c'est ça.
C'est ça? Alors, c'est pas light, hein?
Franchement.
C'est... mais tu sais, ça m'a... J'étais étonnée de la recette parce que, effectivement, beurre, sucre, œuf, c'est comme la pâte à cookies sans la farine, en fait. Et on sait à quel point la pâte à cookies, c'est cru, c'est quand même quelque chose d'assez addictif.
Ouais.
Je me suis dit, il y a peut-être ce truc-là un peu...
Oui, parce que c'est un gâteau qui est cru, en fait,
ouais.
Pour ceux que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Mm. Donc, ça se mange effectivement en sortie du frigo, ça ne se met pas au four. Et c'est vrai que ça fait un peu bouillie, enfin, je ne sais pas comment dire...
Gloubi-boulga.
Ouais, voilà, c'est ça.
Est-ce que la texture, elle doit être comme ça? Parce
qu'elle
est assez mou, finalement, ça imbibe, je l'ai laissé tout.
Oui, voilà. Après, on n'est pas obligé d'imbiber beaucoup les biscuits. Mm. Donc, ça peut être... Enfin, l'imbibation des biscuits, c'est toujours un moment un peu délicat. surtout si après, les biscuits se cassent.
Ouais,
donc,
voilà.
C'est mieux de ne pas trop les faire imbiber.
Vite.
Mais il faut quand même les imbiber quand même, sinon ils ne sont pas...
Ils n'ont pas le goût du café.
Ils ne doivent pas être durs. Le but, ce n'est pas que le biscuit soit dur. Mais ouais, c'est bien. C'est vraiment un dessert de mon enfance.
Ouais.
Quoi.
Ça te reprojette. Ça te fait penser à quoi, là, maintenant, tout de suite?
Ouais, je pense que je vois un peu les goûters à la maison, avec les parents, ou avec, enfin, soit avec mon frère et mes parents, ou soit avec les copains, copines pour les anniversaires. Quoi.
Bon, je te laisse manger. Tu peux y aller. C'est le but.
Si tu me donnes du gâteau, moi, je vais manger.
Bon, ça me rassure sur le fait qu'il soit conforme.
Non.
Quand il a passé donc la nuit au frigo, et tout à l'heure, mon mari, quand je l'ai emmené, m'a dit « C'est normal, ça ressemble à un cloug. » Oui, oui. Voilà. Donc, il y aura une photo sur la recette. Je la mettrai, enfin, je l'enverrai dans la newsletter qui est envoyée la même semaine que la sortie du podcast. Et puis voilà, il y aura la recette, pas très compliquée. Et alors, les biscuits thé brun, la particularité, c'est qu'ils sont un peu parfumés à la vanille. C'est ce que j'ai découvert.
Ah, bah, je savais pas.
Par rapport au petit beurre.
Ok, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Voilà. Moi, je pensais que c'était juste une histoire de marque.
Bah aussi, hein, je pense qu'ils ont essayé de mettre un truc en plus, mais il y a de la vanille dedans. Alors, je verrai peut-être que les petits beurres aussi, mais en tout cas, eux, ils le mettent en avant sur le paquet.
Mm-hmm. Okay.
Voilà. Le packaging qui n'a pas tellement changé finalement, qui est toujours très vintage. Ouais.
C'est vrai que c'est un gâteau des familles, vraiment voilà, qu'on fait avec, enfin, qui est facile à faire, qu'on peut faire avec les enfants. Enfin, avec les enfants, je suis pas sûre, parce qu'en fait, les biscuits imbibés, si on met ça dans les petites mains, on pas trop attention, ça peut être vite cassé. Oui. Pareil, étaler la couche beurre-sucre, je suis pas sûre que ce soit le plus facile à faire pour des enfants. Mais par contre, c'est un dessert qui passe bien dans les goûts, quoi. C'est vraiment goût un peu chocolat, un peu...
Mais il y a du café quand même, et ça, j'étais étonnée.
Mais tu vois que... sent pas.
Oui, effectivement, ça sent pas trop. Mais au départ, je me suis dit, mince, est-ce que les enfants vraiment peuvent aimer le café? Et en fait, si.
Moi, je bois pas de café.
Mais t'aimes bien dans les...
Mais j'aime bien le tiramisu aussi, mais c'est pas trop prononcé.
Non.
Bon. Tu vois, je me fais plaisir.
Ouais, bon, je suis ravie que ça t'évoque, du coup, quel genre d'émotion, quel genre de sentiment.
Ouais, c'est plus le réconfort, le côté familial. C'est ça, c'est un dessert réconfortant, d'hiver. Oui. Ouais, le côté réconfortant. J'imagine que c'est recette.
Il manque juste une petite tasse de thé, en fait. Mm. Voilà. Mais tu pourras l'emporter pour ton goûter. Non, je te laisse.
C'est gentil. Je te remercie. Mais c'est vrai que j'allais... Alors, je tiens à préciser que ma maman fait des gâteaux qui sont beaucoup plus beaux que celui-là. Ça, c'était juste un exemple. Oui. D'ailleurs, je demanderais... En fait, je pense que je vais oublier. Puis quand le podcast va ressortir, ça va m'y refaire penser. Donc, je vais lui envoyer. Je vais dire, maman, écoute le podcast.
Oui.
Donc, je tiens à préciser que ma maman fait des gâteaux beaucoup plus beaux. Nous, dans ma famille, on est toujours habitués à faire... On va plus faire les gâteaux de famille. Mm. Donc, on va pas faire... On peut pas passer au plus grand pâtissier parce que on n'a pas fait les pièces... Enfin, on fait pas de pièces montées. On fait pas des beaux dressages. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je sais pas faire. Par contre, on va faire les bons gâteaux des familles. Le bon gâteau yaourt, tard, le bon marbré, le bon... Moi, j'adore faire un gâteau au chocolat fondant, qui est fondant au milieu, les coulants au chocolat, les cookies, les brownies. Ma maman fait un très, très bon brownie aussi. Le gâteau aux fruits confits, c'est un gâteau type anglais qu'elle fait avec plein de fruits confits dedans, des cerises confits, des raisins secs, qui est trop bon et très joli sur la coupe, parce qu'on voit ces fruits confits. Donc voilà, c'est...
Oui, pas les entremets qu'on a tendance à voir.
Oui, en fait, voilà.
Un peu trop souvent, à mon goût d'ailleurs.
Je pense, pour moi, c'est deux types de pâtisseries. J'ai des amis. J'ai un ami à moi qui a fait le plus grand pâtissier qui s'appelle Momo, qui se reconnaîtra si jamais un jour il écoute ce podcast.
C'est un ami en commun.
Ouais. Et donc, lui, quand il fait des desserts, des créations chez lui, il fait des choses magnifiques.
Comme
lui, ça rentre dans. Tu le mets dans une vitrine de pâtisserie, c'est pareil. Ouais. J'ai une autre amie à moi qui s'appelle. J'en profite, je fais de la pub pour les amis. Saosen, donc gourmandise friandise sur Instagram. Et elle, c'est pareil, elle fait des super créations. Enfin, je suis émerveillée de la qualité de son travail. Je pense à d'autres amis. Anan, j'ai oublié son croc-choc, je crois que sur Instagram, fait pareil. Ils font des créations chez eux de pâtisserie qui sont mais dignes de rentrer dans une boulangerie,
dans une boutique
ou une même de la pâtisserie. Enfin, c'est de la haute voltige. Moi, je ne sais pas faire tous ces trucs-là. J'aimerais bien, mais je ne sais pas faire. Mais par contre, les gâteaux, voilà, ces gâteaux de famille, de réconfort, d'enfance, qu'on va manger avec ses amis, qu'on peut manger avec les parents, les enfants, ça, c'est plus mon créneau, quoi.
Ouais. Non, mais je comprends. Et c'est vrai que, heureusement pour moi, quand je demande les desserts d'enfance des gens, souvent, c'est ce genre de gâteau qu'on me demande. Et non pas une pièce montée ou un entremets avec 12 couches.
Ouais.
Donc ça me va bien, écoute. C'est bien souvent le cas. Peut-être qu'un jour, j'interviewerai Momo. Il est sur ma liste et j'espère qu'il ne va pas me dire un truc très compliqué, mais je ne pense pas. Hormis peut-être les gens qui avaient un parent pâtissier. Peut-être des choses beaucoup plus compliquées. Ouais.
Ou alors, si tu interviews des gens qui viennent... J'ai beaucoup d'amis vietnamiens pour qui leur gâteau préféré, c'est du gâteau au durian.
Ah
bon
oui.
Courage,
oui, voilà.
Si jamais tu dois préparer ça chez toi.
Dans ces cas-là, je ferai appel à un fournisseur que tu connais aussi, Anthony Nguyen. Voilà. Et je pense que je lui ferai faire quelque chose.
Ce sera
un petit peu de la triche, mais...
Je pense que ça sera dans son créneau.
Ouais, voilà, exactement. Bon, mais écoute, je suis ravie que tu te sois un peu replonger dans tes souvenirs. Pour finir notre épisode, avant de passer aux questions ping-pong, j'ai une question un peu rituelle que je pose toujours. Pour toi, quel est le moment idéal de dégustation d'une pâtisserie si là, je te donnais une baguette magique et tu pouvais être avec qui tu veux, où tu veux, manger ce que tu veux, dans l'ambiance que tu veux, ce serait quoi?
Le moment idéal pour moi, ou le contexte idéal, ce serait au goûter avec quelques amis, parce qu'en fait, tout seul, moi, j'apprécie hein, manger toute seule, mais c'est vrai que c'est encore mieux si on peut partager. Mmh. Donc, voilà, avec des amis en train de papoter sur nos vies, voilà, et de déguster une bonne pâtisserie dans un joli endroit. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup les petits cafés mignons, les salons de thé, dans une petite alcôve bien décorée. C'est, ouais, ce serait ça.
Ouais, c'est important le décor. Effectivement,
oui.
Et l'ambiance,
ça aide à faire un moment mémorable et magique, quoi.
Ouais, bon, j'en attendais pas moins de toi. Alors, on va passer du coup aux questions ping-pong, où là, le but, c'est que tu réfléchisses pas trop.
D'accord.
Et que tu répondes un peu du tac au tac. Alors, ton gâteau préféré aujourd'hui?
Je sais pas.
Il va falloir faire un choix.
Alors, tu m'as demandé de pas réfléchir. C'est très difficile pour moi. Très difficile de faire un choix. Je vais t'en donner un que j'aime bien, la tarte citron meringuée.
Ok. C'est que c'est le gâteau préféré des Français?
Ah.
Ouais, j'étais étonnée, mais ça revient assez souvent quand même.
Ok.
Celui que toi, tu réussis le mieux quand tu fais des choses toi-même?
Bah bon, voilà, j'ai un gâteau au chocolat que je connais la recette par cœur, donc c'est un gâteau au chocolat un peu fondant au milieu. Ouais, c'est un que je fais très souvent, il a beaucoup de succès en général.
Ton parfum ou ta saveur préférée?
Ouais, tout ce qui est autour de la vanille. Je pense parfum, quand tu m'as dit parfum, j'ai pensé aussi au parfum qu'on met sur soi. Et moi, j'aime bien les parfums sucrés, donc il y a souvent de la vanille dans les parfums. Après, sinon, ouais, on a parlé praliné tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si on peut prendre ça comme une saveur.
Oui, oui, oui.
Et la pistache. Je suis très, très pistache.
Ah, donc, c'est ton point commun avec Momo.
Ah oui, c'est vrai. Tu m'en as demandé un, je t'en ai sorti trois.
Voilà, bon, voilà. C'est pas grave. Le meilleur repas de ta vie, celui qui t'a procuré le plus d'émotions jusqu'à ce jour?
Alors là,
il y en a eu trop.
C'est peut-être pas le meilleur repas de ma vie, mais je vais parler d'une découverte culinaire que j'ai faite dans un voyage. Donc, j'ai été invitée par l'Office du tourisme de Tbilissi, qui est donc la capitale de la Géorgie, pour un voyage presse chez eux. Et donc, j'ai découvert cette ville pendant 3-4 jours. Et ma première découverte de la cuisine locale, j'ai pris une grosse claque parce que j'ai trouvé ça super bon. Donc, la cuisine géorgienne fait partie des meilleures cuisines du monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, elle a été pas mal acclamée. Et j'ai mangé des très, très bonnes choses là-bas. Ça va être une cuisine plutôt méditerranéenne qui peut se rapprocher. Par exemple, ils ont des mezzés qui pourraient se rapprocher un peu des mezzés libanais. Mais ils ont pas mal de choses qui sont très bonnes et très, très sympas à découvrir.
D'accord, donc un repas géorgien.
Voilà, ouais. Okay. Donc, il y a quelques restaurants géorgiens à Paris, s'il y en a qui veulent tester ça.
Ah bah, si t'as des adresses à nous donner, on les mettra dans les notes de l'épisode.
Ouais,
y a pas de souci.
Donc, c'est sûrement pas le meilleur repas que j'ai fait, mais voilà, j'essaie de trouver un souvenir marquant. Et ça, c'est vrai que ma première découverte de la cuisine géorgienne en Géorgie, du coup, était très agréable.
Ça marche. Alors là, tu vas avoir du mal aussi. Ta pâtisserie favorite, le lieu?
Alors, je peux avoir du mal parce que moi, j'aime bien tester plein de choses. Donc, j'aime beaucoup. Je ne vais pas forcément souvent retourner dans un même endroit, mais j'aime bien en découvrir des nouveaux. Alors, il y a une pâtisserie dans laquelle j'aime bien revenir, même si elle n'est pas à côté de chez moi. Mais je suis quand même allée plusieurs fois. J'ai pris le métro plusieurs fois pour aller jusqu'à cette pâtisserie. C'est Utopie.
Dans le 11e.
Dans le 11e, ouais. Voilà. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir découvrir des nouveaux pâtissiers, des nouveaux talents très régulièrement. Souvent, quand on lâche la possibilité de déguster les pâtisseries des grands chefs qui sont dans les palaces. Alors là, c'est pareil, on se fait très plaisir. Après, c'est pas forcément là où on peut retourner facilement vu le budget, parce que ça reste un budget. Mais ouais, voilà, il y a...
Non, mais Utopie, je valide cette adresse. C'est très bon. Et c'est accessible.
Oui, ouais.
C'est accessible, c'est assez innovant. C'est un peu tout l'idée du nom de la boutique, justement, une utopie de quelque chose qui soit bon et accessible.
Ouais.
Ok, très bien. On mettra l'adresse aussi. Alors, au resto, t'es plutôt entrée plat ou plat dessert?
Ah, plat dessert.
Yes. Le clafoutis avec ou sans les noyaux?
Sans.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Pain au chocolat.
Chocolat noir ou chocolat au lait?
Noir.
En pâtisserie, recette traditionnelle ou recette totalement revisitée?
Traditionnelle.
Texture croquante ou moelleuse?
Elle est croquante.
Croquante. J'ai eu déjà comme réponse croqueleuse. Chocolat ou fruit ?
Chocolat.
Je crois qu'on aura bien compris. Le meilleur pâtissier ou top chef ?
Le meilleur pâtissier.
Galette frangipane ou brioche des rois ?
Galette frangipane. En fait, non, je vais rajouter une troisième offre.
Il y a une troisième option ?
Il y a une troisième option qui est une recette de Dunkerque qu'on appelle la galette beurrée.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça ressemble un peu à une tropézienne.
Ouais.
Mais c'est, voilà, ça va être deux... Comme une tropézienne, donc il va y avoir un gâteau un peu brioché, qu'on va couper en deux. Et à l'intérieur, on a une crème au beurre. Et c'est saupoudré par-dessus de sucre glace.
D'accord, un truc light, quoi.
Très light.
Et ça se mange à la période des rois.
C'est une galette des rois. C'est une recette qu'on a qu'à Dunkerque.
D'accord.
Donc, c'est même pas un truc du Nord. C'est vraiment galette des rois de Dunkerque. C'est la galette beurrée. Donc, on pourrait la trouver que là-bas. Et si jamais il y a des Dunkerquois qui écoutent cette émission et se reconnaîtront dans cette proposition. Mais voilà, sinon, j'aime bien la frangipane. Mais moi, j'aime bien la frangipane revisitée, genre avec des pépites de chocolat, avec de la pistache, avec
Donc
des noisettes.
La frangipane plus, quoi.
Voilà, c'est ça.
OK. Gâteau basque, crème ou cerise ?
Crème.
Ta préférence, pâte feuilletée ou pâte sablée ?
Sablée.
On revient au beurre. Hein. Pas mal. Beurre doux ou beurre demi-sel ?
Demi-sel.
Ah oui.
Ah oui.
D'accord.
Parce que... Je fais tous mes gâteaux au beurre demi-sel. J'ai pas de beurre doux chez moi. C'est... Ouais. Je fais mes gâteaux au beurre demi-sel.
D'accord. Expresso ou café de spécialité ?
Ni l'un ni l'autre, je bois du thé.
Ah bah oui, c'est vrai que t'as dit que tu n'aimais pas le café. Nutella ou nocciolata ?
Nocciolata, ouais, encore, mais je mange pas trop de pâtes à tartiner.
D'accord,
donc,
plutôt du praliné. Hein.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi manger des pâtes à tartiner alors qu'on peut manger du praliné ?
Ou un chocolat, enfin, je sais qu'il y en a par exemple qui adoreraient un genre crêpe Nutella, mais moi je préfère un chocolat noir, un vrai chocolat noir fondu.
Dans la crêpe.
Dans la crêpe, voilà.
Je comprends. Et si toi, tu étais une pâtisserie, laquelle serais-tu ?
Genre une petite tartelette là, avec plusieurs couches, avec de la pistache, avec du praliné.
Donc toi, tu es une personne multicouche déjà ?
Voilà, clairement oui.
Oui.
Donc ça fait du sens.
D'accord. Ouais.
Une petite tartelette, je pense, tartelette. Voilà, par exemple, disons chez Tartelette, pâtisserie.
La boutique.
Ils ont des petites... tartelette, du coup, à la pistache, pareil, il y a plusieurs couches, voilà.
D'accord, un insert coulant.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok, d'accord, ce serait une tartelette avec une petite surprise à l'intérieur.
C'est ça.
Trop bien.
Pas de sablé.
Voilà. Quelque chose de très gourmand.
Exactement. Et très doux aussi.
Ok, d'accord. Bon, et bien c'est noté. Et pour finir, si tu devais me recommander d'interviewer quelqu'un pour ce podcast, quelqu'un qui n'est pas forcément du métier, qui n'est pas chef pâtissier ou cuisinier, mais qui aimerait parler de nourriture.
Eh ben, on a déjà parlé de deux personnes que tu connais déjà, donc Anto Nguyen, du coup,
mais il est chef.
Voilà, donc ça peut-être ça marche pas. Momo,
il est
déjà
amateur
sur ta liste.
Oui.
Alors qui est pas du tout, donc pas quelqu'un qui fait de la cuisine. Donc je peux pas te remettre les amis dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui ne savent pas du tout que je vais parler d'eux, qui ça se trouve ne sont jamais parce qu'ils vont pas écouter le podcast. Mais si j'ai une idée. Ah puis en plus qui est très podcastable. J'ai une amie américaine qui s'appelle Anna Klutz, qui vit à Paris depuis quelques années, qui a un grand, grand amour pour Paris, qui adore la gastronomie française aussi, qui adore les desserts.
Ah.
Et donc, peut-être, ça pourrait être intéressant d'avoir une personne, une américaine.
Oui, la vision.
Ouais, et sachant qu'elle est. Elle a fait des cours de, enfin, je veux dire, elle adore prendre des cours de pâtisserie à Paris. Elle adore tester les bons restaurants. Elle a un avis très tranché sur ce qui doit être un bon croissant parisien. Elle saura vraiment faire la différence.
Ok.
Donc ça peut être une
super
bonne idée.
Super intéressant.
Faudra juste voir si elle est capable de faire toute l'interview en français. Son niveau de français s'améliore, mais voilà. Mais je
D'accord.
pense à elle. Ouais.
Ok. Bon. Eh ben, écoute, vraiment, merci. J'ai passé un super moment à discuter pâtisserie, voyage, plein de choses avec toi. On s'est découvert plein de points communs au fur et à mesure de cette discussion. Merci pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. Et puis, j'espère que ça t'a plu de retrouver ce dessert d'enfance.
Oui. Je m'y attendais pas du tout. Et donc, c'était
génial.
Un grand plaisir.
La surprise en plus.
Moi, j'adore échanger avec des gens. Et alors, vous mettez à parler nourriture. Moi, je suis partie. Surtout si c'est du sucré. Alors là, je peux parler pendant des heures.
Eh ben, t'étais au bon endroit. Merci beaucoup Ophélie.
Merci Marion.
J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorevousguide.fr.
pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup. Et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous Guide. À très vite.